Saint-Martin, sa vie et son rôle. Valeur et sens du témoignage de Sulpice Sévère. La plus grande partie de l'œuvre de Sulpice Sévère est donc consacrée, sous des formes diverses, à Martin. Elle a pour but tout d'abord d'exalter et d'illustrer la sainteté de l'évêque de Tours à l'intention d'un public d'aristocrates lettrés déjà acquis à l'idéal ascétique ou qui pouvait y être gagné. Écrivant en hagiographe plus qu'en historien, l'auteur a dévotement recueilli auprès de Martin lui-même, mais aussi auprès de ses disciples, dont la mémoire auréolait déjà le souvenir de Martin d'une pieuse légende, tout ce qui pouvait contribuer à augmenter la gloire de son héros. L'œuvre est aussi conçue comme un plaidoyer destiné à défendre Martin, et en sa personne, la cause de l'ascétisme. Car l'évêque de Tours, Sulpice ne le cache point, qui prend à partie à maintes reprises ses détracteurs, avait eu de son vivant de nombreux adversaires que sa mort n'avait point désarmés. Des païens, hostiles à un idéal qui relevait à leurs yeux d'un fanatisme absurde, mais aussi, et plus dangereux encore, des chrétiens. Parmi ces derniers, bon nombre, simples clercs ou évêques, s'étaient sentis dérangés, dans la tiédeur de leur foi, par la vie exemplaire de l'évêque de Tours, qui avait toujours refusé de s'accommoder comme eux de compromission avec le siècle. D'autres encore, fidèles fervents de l'Église, nourrissaient quelques suspicions à l'égard d'un ascétisme qu'ils jugeaient outrancier et où ils croyaient sentir des relents d'hérésie. Reflétant les préoccupations du milieu et de l'époque où elle est née, nourrie des intentions complexes qui animaient son auteur, l'œuvre de Sulpice Sévère n'est donc pas toujours d'un abord facile. Certes, on se laisse aisément emporter par le talent du narrateur, qui allie à la limpidité d'un style concis un sens aigu de l'effet dramatique. Mais le lecteur moderne a parfois quelque peine à comprendre certaines allusions de Sulpice, et plus encore, certains de ses silences. Ces difficultés du texte peuvent se regrouper autour de deux questions principales. L'une a trait au déroulement de la vie de Martin, et plus précisément à sa chronologie, l'autre au rôle joué par l'évêque dans le milieu et le moment où il vécut. La chronologie de la vie de Martin, le problème de la carrière militaire. L'un des étonnements que l'on peut éprouver à la lecture de la vie de Saint-Martin est de ne trouver dans cette biographie historique aucune date. Sulpice Sévère s'est borné à indiquer l'âge de son héros à quelques étapes de sa carrière et à noter parfois, et toujours de façon assez vague, quelques concordances historiques. Fort heureusement, nous disposons pour combler cette lacune d'un autre témoignage, celui de Grégoire de Tours, qui occupa le siège de Martin 2 siècles après celui-ci, et qui paraît avoir puisé les renseignements qu'il nous fournit dans les archives de son Église. L'auteur de l'Histoire des Francs nous apprend que Martin, né sous le règne de l'empereur Constantin en 316-317, fut élu évêque de Tours en juillet 371, et qu'après un épiscopat de 26 ans, 4 mois et 7 jours, il mourut en novembre 397 à l'âge de 81 ans. On ne saurait évidemment accepter ce témoignage tardif s'il se révélait inconciliable avec les données plus générales indiquées par Sulpice Sévère, auxquelles sa qualité de contemporain et de disciple de Martin confère une autorité indéniable. Or, si la vie de Saint-Martin et les dialogues nous présentent bien le saint comme fort âgé à la fin de son épiscopat, on peut retirer au contraire, d'une première lecture de sa biographie, l'impression que Martin, en 356, n'avait encore que 20 ans. En effet, Sulpice, lorsqu'il évoque le service militaire de son héros, relate des épisodes qui se situent dans un laps de temps de 5 années seulement. Engagé dans l'armée à 15 ans, baptisé à 18, Martin attendit, nous dit-on, après ce baptême, 2 ans. le temps que vienne à expiration le tribunat de son ami, qui lui avait promis de renoncer alors en même temps que lui au monde. Si l'on doit comprendre que la scène dramatique au cours de laquelle Martin obtint son congé de l'empereur Julien, alors que ce dernier concentrait ses troupes sur le territoire des Vengions, c'est-à-dire en 356, se situe à l'issue de ce délai de 2 années, on ne peut plus accorder crédit aux affirmations de Grégoire. Martin, quittant l'armée après 5 années de service, et donc à l'âge de 20 ans, serait né en réalité vers 334-335 seulement. On doit en fait se souvenir que Sulpice Sévère devait défendre son héros contre les attaques venant du courant d'opinion hostile à l'ascétisme. Or, à ses critiques, le passé militaire de Martin n'offrait que trop de prises. À une époque où les textes canoniques manifestaient une hostilité croissante à l'intrusion dans les rangs du clergé d'anciens militaires, on pouvait reprocher à l'évêque de Tours, comme le fit plus tard son disciple Brice, de s'être, dès le début de sa vie, souillé de l'inconduite propre au métier de soldat. Pour faire front à ces attaques, Sulpice Sévère, qui ne pouvait passer sous silence les antécédents militaires de son héros, s'est du moins efforcé de les présenter sous le jour le plus favorable. Avec toute son habileté d'avocat, il a essayé de donner l'impression que le service armé de Martin avait été bref et surtout qu'il ne s'était guère prolongé après le baptême. Il a donc attiré l'attention du lecteur sur les 2 années au cours desquelles Martin a attendu, sans doute en vain, que son ami tienne sa promesse pour mieux laisser dans l'ombre le nombre d'années pendant lesquelles se prolongea ensuite le service de Martin, J. Fontaine, c'est-à-dire 20 années encore. En effet, le service militaire auquel étaient alors astreintes les recrues ne durait pas moins de 25 ans. Il avait donc commencé pour Martin sous le règne de Constantin, dont le nom a été volontairement omis par l'écrivain pour ne point éveiller la méfiance de son lecteur. Il n'y a par conséquent aucune contradiction entre le témoignage précis de Grégoire de Tours et celui plus ambigu dans ses réticences et ses contradictions apparentes de Sulpice Sévère. Ce dernier s'est efforcé d'autre part de présenter son héros comme une victime. Il l'était, certes, du régime totalitaire que les nécessités de sa survie imposaient alors à l'Empire. Les individus étaient contraints par la loi de suivre la condition de leur père, un fils de vétéran comme Martin étant astreint à servir dans l'armée. Mais pour donner plus de force encore à son plaidoyer, le biographe a présenté Martin comme une sorte de martyr militaire, un exemple de sainteté très en vogue dans la dévotion contemporaine. En donnant à la scène du congé, obtenu après un service militaire d'une durée normale, une couleur aussi dramatique, il a voulu montrer, en une sorte de parabole, que Martin eût fait le sacrifice de sa vie pour sa foi si les circonstances s'y fussent prêtées. La personnalité et le rôle de Martin, le moine évêque. Longtemps contrarié, la vocation de Martin peut enfin s'épanouir librement. Après de nouvelles traverses rencontrées pendant son voyage en Pannonie et son séjour italien, il s'installe auprès de Poitiers pour y mener, dans la retraite de Ligugé, la vie d'un ermite entouré de quelques disciples. S'il doit par la suite accepter contre son gré la charge épiscopale, il réussit à remplir à Tours ses fonctions épiscopales sans déserter pour autant sa profession ni ses vertus monastiques. Vie 10.2. Moine et évêque tout à la fois. Ce sont bien là les deux termes qui résument dès lors les aspects apparemment contradictoires, ou du moins peu conciliables, de la personnalité et du rôle de Martin. Ce qui frappe tout d'abord en Martin, c'est la richesse d'une vie intérieure tout entière, tendue vers le ciel, vie 26.2, attentive à la présence de Dieu qu'il sent en lui. Dans l'ardeur de cette foi qu'il habite, il fait de son existence une prière ininterrompue. Martin peut apparaître.